Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de RFI Midi, ici à Paris, 10h en temps universel.
Grégoire Morelli.
Des dizaines de frappes israéliennes ont visé l'Iran cette nuit. Des frappes iraniennes ont aussi été rapportées sur l'État hébreu. On fait le point sur les derniers développements du conflit et on s'intéressera également dans cette édition à ces Iraniens qui fuient les combats. Le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, rapporte que de nombreux habitants traversent les frontières pour se mettre à l'abri. À suivre, l'Argentine, où le président veut réformer la police. Javier Milei a présenté une réforme de l'institution, une réforme au contour très sécuritaire qui n'est pas du goût de certaines ONG. Enfin, quand Donald Trump profite du mondial des clubs de football qui se jouent aux États-Unis pour faire passer des messages plus politiques, ça sera en fin de journal. Au 8e jour des affrontements entre l'Iran et Israël. Israël, où un immeuble dans le sud du pays a été touché par un missile iranien. L'État hébreu dit aussi avoir mené des dizaines de frappes sur la République islamique, ciblant notamment un centre de recherche militaire à Téhéran, Yelena Tomic.
Selon l'armée israélienne, les frappes ont touché des sites de production de missiles ainsi que le siège du SPND, l'organisation chargée de la recherche et du développement du programme nucléaire militaire iranien. L'agence de presse iranienne IRNA a rapporté une explosion tôt ce matin dans la ville de Rasht, dans le nord-ouest de l'Iran. En Israël, plusieurs incendies se sont déclarés à Beersheba, dans le sud, notamment près du parc technologique dans lequel se trouvent les bureaux de Microsoft. Un immeuble d'habitation a également été touché dans cette même ville. Au moins 4 personnes ont été légèrement blessées. La gare de Beersheba a été temporairement fermée. L'armée israélienne affirme enfin avoir intercepté dans la nuit 4 drones iraniens. Sur le front diplomatique, le chef de la diplomatie iranienne doit rencontrer aujourd'hui à Genève ses homologues français, allemands et britanniques. Donald Trump doit décider, quant à lui, au cours des 2 prochaines semaines, si les États-Unis participeront ou non aux frappes israéliennes contre l'Iran.
Yelena Tomic, Téhéran, a en tout cas écarté toute négociation avec les États-Unis tant que l'armée israélienne poursuivrait ses frappes sur le pays. Déclaration du chef de la diplomatie iranienne lors d'un entretien diffusé à la télévision d'État aujourd'hui. Abbas Araghchi doit d'ailleurs s'adresser au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève aujourd'hui, en pleine guerre donc avec Israël et en marge de pourparlers sur le nucléaire avec les Européens dans la même ville. Cette rencontre a pour objectif de réengager un dialogue pour obtenir un accord solide et sérieux sur le nucléaire. Côté américain, la Maison-Blanche a déclaré qu'en raison de possibilités de négociations, le président Donald Trump déciderait dans 2 semaines si les États-Unis se joindraient ou non à Israël dans ses attaques contre l'Iran. Et dans ce contexte, je vous le disais, les habitants de Téhéran sont nombreux à avoir pris la route ces derniers jours pour se réfugier ailleurs que dans la capitale. Certains Iraniens vont plus loin et quittent même le pays, comme l'a noté Filippo Grandi, le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, qui sera notre invité à la mi-journée.
Nous avons des informations, disons, pas très précises. Nous savons que des Iraniens sont partis dans certains pays voisins, le Turkménistan par exemple, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, mais il s'agit de groupes très petits. Le HCR n'est pas impliqué, c'est des gens qui se déplacent certainement pour se mettre à l'abri des bombardements. Il y a certainement aussi des gens qui se sont déplacés de Téhéran dans les campagnes voisines. Nous avons quand même, le HCR a une présence importante en Iran, parce que l'Iran héberge depuis longtemps des millions de réfugiés afghans, donc on est présent, mais on a très peu de capacité de mouvement, parce que mes collègues travaillent dans les réfuges en ce moment, dans les bunkers, parce qu'il y a des bombardements qui sont très dangereux pour toute la population de la capitale. Donc c'est difficile d'avoir des informations précises, mais on est à disposition des autorités pour aider si cela était le cas.
Filippo Grandi, haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, il sera l'invité de RFI Midi à 12h20, temps universel. Ils sont censés être l'avenir de notre planète et pourtant les violences contre les enfants dans les zones de conflit ont atteint un niveau sans précédent. C'est l'ONU dans son rapport annuel qui tire la sonnette d'alarme en pointant une hausse record des violences dont ils ont été victimes, ces enfants, durant l'année 2024, plus 25% par rapport à 2023. 2023 qui avait déjà connu une forte hausse, de Gaza à la République démocratique du Congo en passant par Haïti. L'ONU précise que 4500 enfants ont été tués dans des zones où la guerre sévit. En Argentine à présent, le président de la République, Javier Milei, a présenté ce mardi une réforme de la police aux accents toujours plus sécuritaires. Et cela inquiète les ONG locales dans un contexte de forte contestation sociale contre les réformes économiques du gouvernement. À Buenos Aires, la correspondance de Luca Lazzo.
C'est en donnant comme exemple les polices états-uniennes et israéliennes que le président de la République, Javier Milei, a présenté son projet d'une nouvelle force d'investigation, véritable FBI argentin dont les prérogatives élargies alarment Paola García Rey, la directrice adjointe d'Amnesty International dans le pays.
Nous sommes inquiets que des agents puissent mener des activités d'espionnage ou procéder à des arrestations sans mandat judiciaire. Ce décret n'est pas clair et pourrait ouvrir la voie à la criminalisation d'organisations, à la répression des manifestations et à la surveillance numérique des réseaux sociaux.
Coupes budgétaires, limitation du droit de grève, remise en cause de l'accès à l'avortement, la politique de Javier Milei est contestée en Argentine où les manifestations sont réprimées violemment et c'est dans ce contexte qu'est présentée cette réforme de la police.
Ce type de mesures, de plus en plus répressives, ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un cadre plus large d'offensive contre les droits humains. Nous sommes témoins d'un rétrécissement de l'espace civique, qui engendre un effet de censure, d'intimidation et d'inhibition des voix dissidentes.
Paola García Rey reconnaît la nécessité d'une réforme des forces de sécurité en Argentine, confrontée par exemple à l'augmentation des crimes liés au narcotrafic, mais regrette que celle-ci s'affranchisse d'un débat ouvert et transparent au sein des institutions et puisse menacer toujours un peu plus les libertés individuelles. Luca Lazzo, Buenos Aires, RFI.
L'Argentine encore, où Cristina Kirchner pourra sortir sur le balcon de son appartement durant ses 6 ans de détention à domicile. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le tribunal chargé de l'exécution de la peine de l'ex-chef de l'État. Une précédente décision de justice lui avait interdit de se rendre sur ce balcon pour saluer ses partisans réunis devant chez elle au prétexte que l'ancienne présidente devait s'abstenir de tout comportement susceptible de troubler la tranquillité du voisinage. Cristina Kirchner a été condamnée pour une administration frauduleuse pendant sa présidence. On reste sur le continent américain, direction les États-Unis. Le football, ou le soccer comme c'est appelé là-bas, ce n'est pas le sport national, mais la discipline bénéficie en ce moment d'une belle mise en lumière et pour cause. Le mondial des clubs de football s'y joue en ce moment, avant la vraie Coupe du Monde de l'été prochain. Autant d'événements qui doivent permettre au pays de rayonner et à son président Donald Trump de se faire remarquer et d'en profiter pour faire passer des messages évidemment qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec la compétition et ses acteurs invités à la Maison Blanche cette semaine. Les joueurs de la Juventus Turin l'ont appris à leur dépens, Thomas de Saint-Léger.
C'est une scène lunaire. À quelques heures de leur premier match, les joueurs de la Juventus sont dans le bureau ovale, debout, alignés en rang d'oignon, presque figés. Devant eux, assis, Donald Trump fait le spectacle.
Il y a un match ce soir. Vous jouez où d'ailleurs? Ici, c'est ça? Tous les billets sont vendus, je crois. C'est bien.
Le président américain échange ensuite avec les journalistes. Politique internationale, immigration, droits des personnes transgenres. Trump joue sur son terrain et les footballeurs y sont invités.
Est-ce qu'une femme pourrait jouer dans votre équipe? Dites-moi les gars.
Il faut une pirouette d'un dirigeant de la Juve pour dissiper la gêne des joueurs coincés. Otage d'un Trump circus où le soccer prend de plus en plus de place. Jonathan Tenwald, journaliste spécialisé au Philadelphia Inquirer.
Je ne sais pas si c'est le foot spécifiquement ou si c'est seulement le spectacle. Hein.
Photo avec le maillot de Cristiano Ronaldo, apparition répétée avec son ami Gianni, ou plutôt Johnny Infantino. Donald Trump a saisi la dimension globale du football, alors il veut être au centre du jeu.
Il voit les stars, l'argent, alors il s'intéresse, il veut être associé avec le succès d'un spectacle.
La finale de la Coupe du Monde se jouera d'ailleurs au MetLife Stadium dans le New Jersey, sur les terres du président américain. Un symbole que le clan Trump aurait discrètement négocié en coulisses. Thomas de Saint-Léger, New York RFI.
Et une dernière information avant de vous laisser. Pékin dénonce un deux poids deux mesures de l'Union européenne sur les commandes publiques de matériel médical. Des propos qui interviennent après que la Commission européenne a décidé aujourd'hui d'exclure les entreprises chinoises des commandes publiques de matériel médicaux dépassant 5 millions d'euros. La Commission a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'inciter la Chine à mettre fin à sa discrimination envers les dispositifs médicaux fabriqués dans l'Union européenne. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal, ce sera d'ici une cinquantaine de minutes. Mais vous le savez, d'ici là, l'information continue en tout temps et en tout lieu sur notre site internet et notre application RFI Pure Radio.